Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Goodlux Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez désormais, Goodlux, c'est tous les jours de la semaine en direct entre 13h et 15h. Je vous retrouve en solo sur BFM Business. Et quand le week-end arrive enfin, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ce week-end, Emmanuel, on se prépare pour le saut Hermès. Du 18 au 20 mars prochain, 1200 tonnes de sable seront réparties sur le sol du Grand Palais pour cette compétition de saut d'obstacles de haut vol avec les meilleurs cavaliers du monde, parmi lesquels l'Espagnol Pilar Gordon, le meilleur du savoir-faire sellier, dont nous parlera Laurent Goblet, maître sellier, et l'élégance et l'art de vivre d'une grande maison française, comme le rappellera Anne-Sara Ponard, directeur général d'Hermès France. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour débuter ces nouveautés de la semaine, comme à notre habitude, Emmanuel, bonjour, on commence avec la table de la semaine.
La table de la semaine toute légère, d'ailleurs elle s'appelle Plume. D'abord elle est installée dans le 7e arrondissement, rue Pierre-Leroux. La rue Pierre-Leroux, c'est certainement l'une des rues les plus modianesques de Paris. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment que c'est toujours, toute la semaine, un dimanche en province. Alors la table s'appelle Plume, sous-titrée Cuisine d'auteur. On y retrouve un jeune chef, passé par quelques grandes maisons, notamment Alain Saint-Dérins. Et pour une fois, je vais pas trop vous parler de la carte, de la dynamique, de l'instantanéité et de cette cuisine très spontanée qui marque bien sur le produit, mais d'une grande oubliée finalement de la critique gastronomique. On en parle de moins en moins et pourtant c'est ce qui intéresse les gens, y compris de la foodosphère, c'est l'addition. Avec certainement le menu là encore très léger, très plume, très printanier, 25€, entrée, plat, dessert, au déjeuner, remarquable de concision, de générosité, on n'est pas dans la portion chiche, ça donne un velouté qui va travailler les tubercules, c'est-à-dire les derniers légumes d'hiver, friands, gourmands, enrobants, superbe travail de cuisson autour d'un vrai beau cabillaud, mais une vraie belle pièce, avec la peau vraiment rôtie, la chair nacrée, accompagnée d'un jus fort, bien poussé, qu'on nous propose de déguster avec une bière à l'encre de sèche. Je suis pas un fanatique de bière.
Une bière à l'encre de sèche. Dans la sauce ou?
Non, que vous en accompagnement. Alors d'abord une jolie petite carte des vins, mais là on y va, on se dit pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est une bière assez étonnante, qui a un côté iodé, tout à fait légère. On est loin de la bière, mais on n'est pas non plus dans l'eau de mer. C'est assez étonnant. Donc voilà, il y a ce genre d'attention en salle. Et puis, côté dessert, d'abord on n'est pas obligé de prendre les desserts, mais peut-être d'aller travailler du côté des fromages, parce que tout près de la rue Pierre-Leroux, il y a un des plus grands fromagers de Paris qui s'appelle 4 hommes. Donc une belle sélection. Voilà, 5€, entrée, plat, dessert. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de générosité, autant d'à-propos autour de ce genre de menu. Les prix ont tendance à s'envoler à Paris. Je crois que là, on va pouvoir enfin recoller à cette jeune garde qui avait oublié un peu quand même que derrière la spontanéité, il fallait aussi que les prix soient légers. L'adresse est bien nommée, Plume, rue Pierre-Leroux, dans le 7e arrondissement. Allez-y.
Au vraiment. Numéro 24.
Bravo.
Allez, j'ai une déjà nouvelle allé, boutique. Michel Rouleau et la créatrice Elodie Cohen ouvrent l'esprit parisien dans le Marais. On change de quartier. Michel Rouleau, c'est l'ancien directeur général adjoint des galeries Lafayette. Elodie Cohen, elle est créatrice de bijoux. Donc, elle fait réaliser ses bijoux faits main. Ils sont assemblés dans des ateliers parisiens. Donc, on retrouve, bien sûr, ses créations. On a un petit esprit un petit peu boudoir avec exactement des coiffeuses 19e, les moulures apparentes, les lustres. Et puis, là encore, comme souvent, ils font découvrir pas mal d'autres créateurs comme les bougies La Belle Mèche, comme les mailles WISP tricotées par une communauté de femmes, comme les verres solaires Monsieur Beau, comme des t-shirts en lin imprimé. Un esprit un petit peu éthique, un petit peu bien pensant dans ce petit boudoir du Marais, voilà, à découvrir. Ça s'appelle tout simplement l'esprit parisien. Allez, web de luxe.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, web de luxe.
Sandy Prenois, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ben nickel.
Alors avant de vous laisser commencer, je voulais faire un petit rectificatif, un grand mea culpa même. La semaine dernière, vous nous parliez ici même du magazine digital de Relais et Châteaux.
Instant.
Instant, exactement. Et j'avais dit que certains Relais et Châteaux n'acceptaient pas, enfin n'aimaient pas beaucoup les enfants. Mais c'est faux, ça c'était avant, c'était il y a très longtemps. Maintenant, Relais et Châteaux, ils sont family friendly comme toute l'hôtellerie haut de gamme. Et bien sûr, venez avec vos 15 enfants, ils vous accueilleront à bras ouverts. Tester.
C'est
voilà.
Bon.
Maintenant, c'est dit. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, vous, sur le web cette semaine?
Alors, d'abord, tout ce petit mot sur un nouveau site qui s'appelle Smile in the Rush, The ZE. C'est le site qu'il faut connaître. Il est destiné à simplifier la vie des habitants de l'Ouest parisien, ceux de Neuilly, de Boulogne.
Très
et pas que. Et pas que, puisqu'il y a aussi quelques bons plans côté Est. En fait, ça a été créé par deux copines, businesswoman débordée, femme avec un grand F, maman aussi de plein d'enfants. C'est l'idée d'un club privé où on va échanger ses bonnes adresses, ses bons plans, le bon bricolo, le bon ceci, cela. On va avoir des adresses de lieux où emmener des collègues de travail, où aller avec sa moitié, je sais pas, pour une soirée romantique ou dans un hôtel ou je ne sais quoi. Voilà, il y a tout ça. Côté Est, côté Ouest essentiellement. Côté Est, ça se développe puisqu'on peut même créer une franchise si on veut. Et même quand on est régional, un régional.
De régional de l'État. Voilà, on peut avoir son petit site aussi. Très bien.
On peut faire ça, c'est bien fichu, c'est un joli site, je trouve qu'il faut aller faire un tour, ça s'appelle Smile in the Rush, et ils organisent même des rencontres littéraires. Cette semaine, ils ont rencontré Christophe Boltanski, Préfémina 2015, voilà, il y a pas mal de choses,
c'est so chic.
C'est véritablement la belle vie.
Voilà, c'est ça, labellevie.com, qui là encore est destiné à vous simplifier les choses. C'est une marketplace online où on va faire ses courses de la manière la plus royale qui soit. En fait, c'est une épicerie ouverte 24/24. Alors, du lundi au samedi, c'est ouvert de 7h à 22h et le dimanche de 7h30 à 13h30. Le truc génial, c'est que quand vous êtes à Paris, vous recevez vos courses après les avoir commandées en ligne une heure après seulement chez vous.
Et c'est du frais, en fait. C'est comme un marché.
Il n'y a pas que du frais. Il y a des produits frais et il y a tous les produits qu'on peut trouver dans une grande surface lambda.
D'accord.
C'est absolument génial. Il y a même un fleuriste, pour vous dire. Voilà. Et donc, vous êtes livré une heure seulement après, là, quand vous êtes à Paris, une heure et demie en petite couronne, et trois heures.
C'est
vraiment sûr. C'est vraiment ça, la révolution. Il y a tout un système, je vais pas rentrer dans les détails, qui met en place cette possibilité-là. Et en plus, vous n'avez pas de frais dès lors que vous atteignez 20 euros de commande. Non, c'est absolument génial,
parce
vraiment.
Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de supermarchés qui font aussi des...
Bien sûr.
Mais là, une heure,
ouais, mais là,
chrono,
vous faites tout à la, voilà, depuis chez vous, tranquille, les courses arrivent, quoi.
Bon, on va tester si les produits frais sont bons, parce que ça, c'est la deuxième chose importante.
Oui, et même, on peut vous cuisiner des choses spécialement pour vous, etc. Vraiment, allez voir, c'est vraiment bien fait.
Très bien, ça s'appelle labellevie.com. Une dernière chose.
Une dernière chose avec readyart.fr. Alors ça, c'est une nouvelle plateforme qui va mettre en relation les acheteurs et les collectionneurs. Donc ça peut être des artistes, des collectionneurs, des organismes beaucoup plus professionnels. Ce sont uniquement des œuvres modernes ou contemporaines. Ça facilite les échanges. L'acheteur va payer 20 euros pour être mis en relation avec un vendeur X ou Y. Et très rapidement, après, le commerce peut se faire. C'est de manière simple et une possibilité d'accéder à des œuvres qu'on ne trouve pas forcément ailleurs.
C'est le bon coin des œuvres d'art.
Exactement. Read the art. Et c'est mais c'est ça, complètement.
Eh ben voilà, merci infiniment.
Merci à vous.
Oh, on se sent beaucoup mieux, vous nous avez tellement simplifié la vie cette semaine, samedi. Merci infiniment, à la semaine prochaine.
De l'Ouest parisien.
Et de l'Est.
Allez, un bar, Emmanuel.
Ah, pas n'importe quel bar. Ça commence comme une mauvaise histoire. Le bar dont je vous parlais, c'est l'un des plus mythiques bars parisiens. Mais là, vraiment, le mot mythique vaut son pesant de cacahuètes. 1918, la création. Au moins de la même famille, la famille Biolato, puis 1931, c'était le Forum. Il était installé depuis toujours du côté de la Madeleine. Au printemps dernier, il doit disparaître parce qu'il est installé sur un bail qui appartenait à un fonds qatari. Le fonds qatari leur dit, vous dégagez. Pourquoi? Parce que désormais, on va faire un hôtel. Et tiens, je vous donne le scoop. Cet hôtel, ce sera donc l'hôtel Fauchon. Mais bon, le Forum, ils ne se démontent pas, et bien ils refont tout. Mais alors là, ils quittent donc leur fief de la Madeleine pour s'installer depuis quelques jours du côté de la rue du Louvre. La rue du Louvre, c'est pas très loin du Louvre, c'est entre les Tuileries, le bas des Tuileries, et on va dire le quartier des Victoires. Et là, on retrouve tout ce qui a fait le Forum, c'est-à-dire un décor véritablement de bar américain, très cosy, très enveloppant, et puis surtout un savoir-faire en matière de cocktails absolument hallucinant, avec des cocktails classiques, des cocktails signatures, et puis quelques cocktails qui ont marqué, la cosmogonie internationale de la mixologie. Allez, 1929, le Forum Cocktail, création de Antoine Biolato, du gin, du Bombay Saphir, du Noilly Prat, du Grand Marnier, et du cordon rouge.
Et à consommer avec modération.
Avec modération. Autre cocktail à ne pas laisser filer, le fameux rose de Varsovie, de la vodka, une liqueur un peu bitter du Cointreau de l'Angoustura. C'est remarquable, vous allez
attention,
voir ce que c'est
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai bar américain, ou du moins ce qu'il en reste dans l'esprit. Alors, ils ont des règles, notamment, il faut savoir qu'il faut quand même, pour les messieurs, pas arriver en short. On peut sauter la cravate. Pour les femmes, elles viennent comme elles veulent, elles ont toujours du talent. Vous évitez les portables, parce que comme ils disent, on n'est pas l'annexe de votre bureau. Et il n'y a pas plus cool comme bar, il n'y a pas plus antidépressif. Mais c'est pas un bar à vin, c'est pas un restaurant, c'est pas un bar à bière, c'est vraiment un bar américain dans la grande tradition du genre.
Le forum, rue du Louvre. Allez-y, foncez, ils en ont besoin. Allez, je termine avec l'objet de la semaine. L'objet de la semaine, vous savez que désormais, il y a une mille et une façons de parfumer sa maison. On a 150 bougies chez nous. Et donc, cette fois, je vous propose la promeneuse. Qu'est-ce que c'est la promeneuse? Vous connaissez le principe de la baladeuse, la petite lampe avec, que vous tenez par une anse, qui ressemble un petit peu à un lampion à l'ancienne, avec laquelle vous vous baladez. Eh bien, c'est exactement le même principe. Ça ressemble à ça, sauf que c'est du verre, tout ça, c'est fait main, c'est travaillé avec de la céramique, du laiton. Et c'est Cyr Trudon qui a imaginé ça avec la designer, la jeune designer Pauline Deltour. Et en fait, tout simplement, ça diffuse une odeur imaginée par Cyr Trudon, parce que c'est quand même ce qu'ils savent faire. Il y a un petit système, vous mettez tout en bas une petite bougie chauffe-plat qui sent rien. Tout en haut, sur la coupelle, vous mettez un camé, parce qu'ils font ça très joliment, un camé en cire qui va fondre doucement et qui va libérer l'odeur que vous avez choisie, qui peut être Ernesto, donc... Joséphine, la marquise, Madeleine.
Et donc on peut la balader à travers tout ça.
C'est bien le principe.
D'accord.
C'est bien le principe, c'est qu'on peut la déplacer.
Dans l'esthétique, très plutôt joli, mais ça ressemble un petit peu d'ailleurs aux lumières qu'emportaient les mineurs lorsqu'ils descendaient dans le fond. Vous savez, ils apportaient leurs lumières comme ça. Alors c'est donc très chic, mais il y a de ça. Hein.
Voilà, là c'est un petit peu plus chic, de savoir-faire. Mais évidemment, on reprend cet esprit-là. Et ça coûte 250 € et c'est à Cyr Trudon. C'est un très bel objet. À Cyr Trudon que l'on doit ça. Allez, pour nous éclairer sur le sceau Hermès, pour vous éclairer sur le sceau Hermès, restez avec nous, c'est dans un instant sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Une centaine de chevaux de concours, une soixantaine de cavaliers, 18 nations, 2 tonnes de foin ou encore une quinzaine d'obstacles par parcours. Voilà le programme du sceau Hermès qui se tiendra la semaine prochaine, le week-end prochain. Et dans Good Luxe, on vous fait découvrir les coulisses de ce grand rendez-vous. Nous sommes en compagnie d'Anne-Sara Panard, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale d'Hermès France, nous sommes en compagnie d'une cavalière. Et quelle cavalière? La cavalière espagnole Pilar Cordon Muro. Bonjour.
Bonjour.
Et également d'un maître sellier, Laurent Goblet. Bonjour.
Bonjour.
Maître sellier chez Hermès,
merci.
Bien entendu.
Mieux vaudrait.
Oui, mieux vaudrait. Anne-Sara Panard, on est à la septième édition déjà. Du sceau Hermès au Grand Palais, du retour du sceau Hermès au Grand Palais. On rappelle le principe et surtout comment il s'inscrit, parce qu'on est dans une véritable compétition équestre, comment il s'inscrit dans le parcours du saut d'obstacle?
Alors, la septième édition de cette année, donc depuis 2010, la première année, c'est un concours au plus haut niveau qui rassemble 40 des meilleurs cavaliers mondiaux et c'est un concours CSI 5 étoiles qui permet à chacun de ces cavaliers, et Pilar pourra en attester, d'avoir un certain nombre de points pour leur classement mondial. Voilà.
Alors, il y a 7 ans, quand vous décidez finalement de vous associer à cette compétition de haut vol et de s'associer en plus au plein cœur de Paris, au Grand Palais, vous pensiez que ça rencontrerait un tel succès, très sincèrement? Parce que chaque année, non seulement maintenant faut pouvoir avoir de la place, mais les gens veulent revenir. Et il n'y a pas que des cavaliers, que des amateurs d'équitation finalement qui fréquentent durant ce week-end ce grand saut. Il y a aussi plein de gens, de curieux qui viennent... bien sûr découvrir le monde de la compétition équestre, mais aussi un univers.
L'idée, aujourd'hui effectivement, le sceau Hermès est devenu extrêmement légitime tant pour les grands sportifs que pour le public, et le public parisien en particulier. C'est vrai qu'il a rencontré un succès, et je crois qu'on ne l'a pas fait particulièrement en se disant ça va être un succès ou ça ne va pas être un succès. Je crois que la maison est avant tout une maison authentique, et elle l'a fait parce que le lien avec le cheval est le lien le plus naturel.
Légitime.
Voilà, le plus naturel. On était déjà au Grand Palais, on est revenu au Grand Palais, puisqu'on y était entre 1900 et 1957 pendant les premières compétitions. Voilà, donc c'est un retour. dans un quartier parisien tout proche de notre maison historique, rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc voilà, c'était un lien naturel.
Donc l'équation, si on résume, le Grand Palais, la légitimité d'Hermès, et puis aussi effectivement une vraie compétition avec des grands cavaliers.
Une vraie compétition aujourd'hui avec une très forte légitimité sportive. On l'a voulu dès le début. Hermès est créateur et organisateur de l'événement, et je crois qu'aujourd'hui, oui, on peut dire que le pari, en tout cas, est réussi. Voilà. Et maintenant, le défi, c'est de rester à ce niveau-là.
Ah, c'est ça.
Donc, alors, la pression est forte d'année en année.
On se réinvente chaque année, effectivement, pour pas bégayer non plus son équitation.
Alors un mot sur la compétition, justement. Pilar Cordon-Muro, vous faites partie des plus grandes cavalières en saut d'eau. Vous êtes partenaire d'Hermès depuis 4 ans. L'année dernière, vous avez remporté, vous étiez deuxième dans le prix de la ville de Paris au saut Hermès.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a de spécial? En quoi il est différent des autres, ce saut Hermès?
Pour moi, c'est surtout l'atmosphère qu'on respire au Grand Palais. Et c'est surtout l'équipe de personnes. C'est tout l'ensemble, c'est les cadres du Grand Palais. Et finalement, il y a une énergie, mais en même temps, une sérénité. C'est la sobriété, mais en même temps, c'est intime, c'est extraordinaire.
C'est plus facile ou plus difficile de sauter en intérieur? Parce que vous êtes quand même à l'intérieur, ça change, c'est pas... Ça se passe pas tout à fait de la même manière.
C'est assez exigeant. Les cadres du Grand Palais, c'est bon. En plus, comme on a dit, c'est un CCIO et CCI 5 étoiles. Les meilleurs cavaliers, les meilleurs chevaux sont là. Et c'est assez dur. C'est assez dur et exigeant.
Alors, c'est difficile, c'est exigeant. D'abord parce que c'est une grande compétition. Il y a les meilleurs cavaliers. C'est quand même dans un lieu assez émouvant, impressionnant. C'est cette verrière, c'est un ciel fermé, j'allais dire. Même si la verrière, on voit le ciel de Paris. Comment ils réagissent, vous, les cavaliers? Faut que, bien sûr, vous preniez la mesure de tout ça. Mais les chevaux, est-ce qu'ils réagissent différemment quand ils se retrouvent comme ça au Grand Palais, où finalement, eux, ils sont habitués, c'est vous qui allez les guider? Ou est-ce que, justement, durant 2-3 jours, se retrouver comme ça, dans ce cadre-là, ça vient infuser un petit peu aussi leur mental?
Pour moi, je pense que c'est extraordinaire. Mais on transmet tout à notre cheval. Le cheval, c'est un animal très sensible. Et un cadre comme le Grand Palais, le saut Hermès, et pour moi, les chevaux sont beaucoup mieux. Même nous, les cavaliers. Mais c'est cette énergie qui fait sentir, qui te fait sentir vraiment...
Dans une boule,
on va dire.
Pourtant, c'est vrai que la mise en place, l'organisation, j'imagine, Anne-Sara Ponard, pour Hermès, c'est quelque chose. Parce que, effectivement, les chevaux arrivent, sont là sur le bitume. On a des écuries, quand même, le long des Champs-Élysées qui s'improvisent pour quelques jours. Sandy Box, donc. Et puis, les chevaux passent de là à l'intérieur. C'est toute une organisation. On pourrait se dire, ça rajoute à la difficulté.
Il y a une vraie complexité d'organisation. Elle est d'ailleurs assez longue. Le montage commence une semaine avant et implique 300 personnes. Donc c'est une grosse organisation. Après, je crois que moi qui ne suis pas cavalière et qui ai un point de vue donc public, l'émotion est très très forte pendant ces 3 jours. Et chacune des compétitions, en fait, on ressent cette émotion, même si on est néophyte. Et donc c'est ça la très grande force et peut-être cette énergie que je ressens différemment.
Vous n'êtes pas cavalière, moi non plus, heureusement. mais on est dans le public. Une grande compétition sportive, c'est aussi parfois le talent d'un public. Et d'ailleurs, quand on interviewe des sportifs, que ce soit des tennismen, ils disent le public de Roland-Garros, c'est pas tout à fait le même que le public de Flushing Meadow, Wimbledon. Est-ce que le public désormais parisien, il a un esprit différent, il réagit différemment que sur le reste du circuit?
Ils sont l'atmosphère créé pour le public des sauts Hermès, c'est un esprit différent que des sauts de concours que
Il est plus exigeant, il est plus discipliné,
Non, on va dire pas moins sportif, c'est plus intime, on va dire, et on est tous dans une boule Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
C'est vraiment exceptionnel. Un peu comme une bulle.
Est-ce que on a un public qui aime le cheval?
Voilà, ça a ravi. Comment vous le sentez, ce public-là?
Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout un public qui est là parce qu'il aime le cheval, il aime cette rencontre avec cet univers. Et faut pas oublier que ce sport est quand même le troisième sport le plus pratiqué en France. Et je crois que ça donne cette atmosphère aussi.
Enfin,
ça participe
fanatique
à cette atmosphère, voilà.
Nuage
bleu. Très féminin, il y a beaucoup de femmes.
Oui. Nuages bleus et gribouille d'Ulysse.
Voilà.
Vous allez les monter.
Ils seront ici.
Voilà. Ils sont prêts?
Ils sont prêts.
Ça, ce sont vos deux chevaux.
Voilà.
Bon. Pourquoi deux? Parce que vous faites plusieurs prix? Parce qu'il faut toujours en avoir deux?
Bon, et dans un concours en 5 étoiles, tu as le droit à prendre deux chevaux. Mmh. Bon, et voilà. Et dans ces cas-là, c'est nuage bleu et gribouille.
Alors, pour le public, qui n'est pas un public de novices, j'imagine qu'il y a parmi nos téléspectateurs, nos auditeurs, des gens qui connaissent bien l'équitation, ils savent ce que c'est qu'un 5 étoiles. Mais nous qui ne savons pas, qu'est-ce qui fait la différence entre un concours 5 étoiles et un 4, un 3 étoiles? C'est bien sûr, j'imagine, les cavaliers qui vont participer, les chevaux qui les accompagnent. Voilà. Mais est-ce que sur le parcours, il y a des difficultés plus fortes que sur d'autres parcours moins bien dotés, entre guillemets?
Oui, oui. Les difficultés sont plus fortes dans 5 étoiles que dans un 4. Les 5 étoiles, c'est le plus haut niveau.
Donc pour le public, c'est plus spectaculaire.
Tout à fait.
C'est plus haut, les obstacles sont plus haut, plus nombreux.
Il y a différents épreuves, mais on va dire les grands prix, c'est vraiment le plus haut niveau.
Mm-hmm. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on peut être très près des chevaux. Et donc très près aussi des cavaliers. Donc,
on les entend.
Il y a la résonance des pas sur le sable, le souffle. Ça c'est et même de la barre qui tombe de temps en temps, de la barre d'obstacles. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait la spécificité. C'est le son pour vous, Pilar, quand on est sur le cheval.
Et c'est extraordinaire. Ça t'effet, ça rentre à l'intérieur et vraiment ça donne. Ouf, un sentiment est incroyable.
Ça, c'est assez étonnant.
Vous sentez bien la compétition cette année, là? Vous allez finir première cette année?
Oui, je me sens bien. Je vais faire tout mon possible.
C'est pas du hippodrome, on parie pas.
Ouais.
On aimerait autant vous le remportiez, parce qu'à chaque fois qu'on invite quelqu'un, on l'a fait beaucoup pour les courses de chevaux, on perd tout le temps. Donc
c'est
là,
c'est pas vrai.
À chaque fois, on les invite, ils arrivent, ils se plantent. Donc là, il faut gagner.
Voilà, ça va.
670 000 euros de dotation en tout. Combien il y a de prix, en fait? Parce que c'est vrai qu'il y a toute une répartition de prix. Je parlais tout à l'heure du prix de la ville de Paris, Anne-Sarah de Pendart, mais il y en a plusieurs.
Il y a 9 épreuves tout au long du week-end. 6 qui sont pour les cavaliers engagés dans le CSI 5 étoiles, donc les meilleurs cavaliers au monde. Enfin, 40 parmi ces meilleurs cavaliers. Et puis 20... espoirs de l'équitation qui ont moins de 25 ans, qui concourent dans 3 épreuves qu'on appelle les épreuves talents, auxquelles nous tenons particulièrement dans la Maison Hermès, parce que c'est vraiment une valeur qui nous est très chère, à savoir la valeur transmission que nous illustrons à travers ces épreuves-là. Et chacun de ces cavaliers est un cavalier en fait qui est accompagné par ou coaché, accompagné, conseillé par un cavalier engagé dans le CSI 5 D'accord. étoiles. Et donc c'est vraiment ce lien entre le cavalier qui est déjà plus habitué au concours au plus haut niveau et celui qui va probablement concourir bientôt dans les CSI 5 étoiles, qui est très important.
Et voilà, alors, vous êtes marraine comme ça, coach d'un futur talent?
J'espère bien, ils vont me dire et j'espère bien que...
Vous allez accompagner quelqu'un. Est-ce qu'on est obligé de concourir?
On est très fiers sur ce sujet. Hein, on est très fiers d'avoir un certain nombre de nos jeunes talents des éditions précédentes qui aujourd'hui concourent dans le 5 étoiles
Est-ce qu'on est obligé de concourir avec une selle Hermès?
Absolument pas.
Pourtant, quand même,
la liberté est une autre des valeurs qui nous est très chère. Donc, le cavalier est tout à fait libre de prendre
son matériel.
Mais bon, quand il découvre les selles Hermès, parfois les choses changent. On vous a pas encore entendu, Laurent Goblet, mais justement, on va faire une petite pause et on va prendre le temps d'entrer dans votre atelier, de se poser sur votre savoir-faire de maître sellier. On va voir que là aussi, ça a toute son importance. Une selle, ce n'est pas si simple qu'on l'imagine. On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve juste après.
Do we do, do, do. avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des Good Luxe au Sceau Hermès cette semaine. Ce sera le week-end prochain au Grand Palais à Paris les 18, 19 et 20 mars. Et pour entrer dans les coulisses, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Sarah Panhard, directrice générale d'Hermès France, de Pilar Cordon Muro, cavalière espagnole, et de Laurent Gobelet, maître sellier chez Hermès France. Alors justement, la selle, c'est quand même un élément important de tout ceci, d'où le rapport Hermès, le cheval, la selle. Maître sellier, vous travaillez bien sûr sur la fabrication avec tout l'atelier de sellerie du 24 Faubourg, mais aussi sur l'innovation. Et quand arrive le Sceau Hermès, vous présentez votre nouveau bébé. C'est bien ça ?
Tout à fait, c'est ça. Alors on présente notre nouveauté, notre nouvelle selle, mais c'est une selle qu'on a étudiée, bien entendu, au préalable avec les cavaliers et nos cavaliers partenaires. C'est aussi une selle qui est plus plus qu'importante, puisque c'est nous, moi qui suis artisan chez Hermès, je possède beaucoup d'outils pour travailler. Et la selle, c'est l'outil essentiel du cavalier. Donc l'outil du cavalier doit être très performant, puisqu'on est dans le sport. Et si le cavalier ne fonctionne pas bien avec son cheval, ça peut être aussi à cause de la selle. Donc nous nous acharnons à travailler nos produits de façon à ce qu'ils soient opérationnels et qu'ils conviennent tout à fait à la monte de nos cavaliers.
Vous êtes cavalier vous-même, Laurent Gobelet ?
Alors, je suis un piètre cavalier, j'ai monté à cheval.
Parce que c'est difficile de sentir les sensations. Pour comprendre comment fonctionne une selle, tant qu'on n'a pas pratiqué...
Eh bien, c'est essentiel de monter sur le produit que l'on fabrique, parce que sinon, on ne le comprend pas. Donc, pour le comprendre, eh bien, il arrive bien souvent de s'asseoir sur le dos d'un cheval et de pratiquer. Donc ça, c'est essentiel, mais c'est surtout aussi d'être à l'écoute de nos cavaliers qui vont nous aider à améliorer le produit, notamment dans la recherche, puisque avant de sortir une nouvelle selle, il y a toute une étude, donc c'est la partie à laquelle je suis en charge. Et l'étude, bien sûr, elle peut être différente selon aussi les différents cavaliers, car tous les cavaliers ne montent pas avec la même selle. Il y en a qui aiment bien des sièges creux, des sièges plus plats, des gens qui sont plus en liberté dans leur selle, d'autres qui veulent être un peu plus aidés. Donc tout ça, nous le prenons en compte et nous étudions donc les nouveaux modèles par rapport à cette technique.
Est-ce que lorsque vous travaillez comme ça pour une selle et avec ces cavaliers qui sont des grands cavaliers, est-ce qu'il existe, comme dans d'autres sports, une différence entre, j'allais dire, les selles pour les grands cavaliers, les selles de compétition et la selle du grand public? Les selles que vous allez présenter, elles s'adressent simplement à des très grands cavaliers? Ou bien est-ce que, je n'allais pas dire un kidam, mais quelqu'un qui n'a pas le même niveau peut aussi pratiquer ce genre de selle?
Alors quand on sort un modèle de selle, c'est un modèle qui a été étudié et qui est disponible pour le cavalier lambda. C'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir mettre de positif dans une selle va être opérationnel pour un cavalier qui est pas très efficace. Parce que les aides vont être là, tout ce qui va l'aider à fonctionner, il va le retrouver, parce que monter à cheval, en fin de compte, c'est intuitif. On est assis avec son cheval et on est en équilibre ou on ne l'est pas. Donc nous nous acharnons à mettre nos cavaliers dans le meilleur positionnement, meilleur environnement, le confort. Le confort est un maître mot dans une selle, puisque le confort, c'est aussi bien le confort du cheval que le confort du cavalier. Mais après, vous avez le confort aussi des cuirs qui vont améliorer le produit pour qu'il soit plus... s'adapter beaucoup mieux, se mettre dans la forme. Vous avez aussi le confort qui est par rapport à un matériau qu'on va pouvoir apporter, différentes mousses qui peuvent donner plus de sensations.
C'est
donc
ça,
tout ça, c'est l'étude.
Parce que, bien sûr, on est chez Hermès, vous venez de parler des cuirs, donc bien sûr, toute la partie visible, c'est les cuirs. Mais tout votre travail aussi, Laurent Gobelet, et ça, on sait moins, c'est tout ce que vous mettez à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous travaillez aussi avec les matériaux du 21e siècle. Vous parliez de mousse à l'instant. Parfois, ce sont des plastiques, ce sont des choses. Vous travaillez avec tous ces matériaux-là parce qu'ils améliorent encore le confort.
Alors, ce qui est intéressant dans la sellerie, c'est qu'il y a la sellerie du siècle d'avant, il y a la sellerie d'aujourd'hui. Et ce qui a beaucoup changé au monde d'aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies qui ont amené des nouveaux matériaux. Et nous sommes constamment à l'étude avec ces nouveaux matériaux. Dès qu'on nous amène quelque chose de nouveau, on regarde à quel endroit on va pouvoir l'utiliser et qu'est-ce que ça va pouvoir apporter en plus. Alors on va travailler sur le poids, mais on va travailler surtout sur de l'élasticité, quelque chose qui va mieux répondre, qui va amortir, parce qu'on est dans les sensations. Les sensations, c'est essentiellement, comme je vous disais, le confort. Mais comme le confort, ça peut être aussi de l'ergonomie dans la selle. Parce que là, ce n'est pas uniquement une mousse qui va vous permettre d'être assis correctement. Mais il y en a besoin.
Voilà.
Mais si vous vous avez une belle mousse et puis que vous n'êtes pas dans l'ergonomie, vous avez tout faux. Et puis ce qui est intéressant chez nous, chez Hermès, c'est que on travaille aussi des cuirs de qualité qui vont se mettre en forme. On a aussi des process de fabrication qui sont aussi ancestraux. Vous savez, nous, chez Hermès, tous les artisans ont transmis leur savoir-faire et chaque artisan a amené après sa pierre par rapport justement à tous ces nouveaux matériaux.
D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est un artisan, une selle. Hein, il travaille de bout en bout
sur
la selle.
Oui, alors ça responsabilise... Ouais, l'artisan,
je termine juste parce que du coup, quand on va chez Hermès dans l'atelier de sellerie, on a les registres avec tout est noté depuis le début, si j'ose dire. Le nom de l'artisan, la selle, le nom du client et tout ça, c'est encore écrit à la main de façon manuscrite.
Oui, alors quand on a une maison ancienne, on a aussi une histoire. Une histoire, l'histoire est très importante et bien sûr, il faut pouvoir la raconter, mais il faut aussi se la raconter à soi-même. C'est pas pour la raconter aux autres, parce que
et la transmettre.
Et la transmettre. Voilà, c'est la transmission. Et en même temps, cette transmission, nous, notre travail, c'est on fabrique des objets qui vont traverser la vie des hommes, en fin de compte. Hein. Et c'est pour ça qu'au Grand Palais, ce qui est important pour nous, c'est l'écrin, c'est le moment où on va voir l'objet qu'on a fabriqué dans son utilisation.
Justement, Pilar Cordon, vous avez travaillé avec Laurent Goblet pour Allegro, le dernier bébé qui va être présenté. Lorsqu'on fait du saut d'obstacle, la selle doit être différente que lorsqu'on fait d'autres compétitions ou lorsqu'on part se balader, il faut des selles différentes ou pas?
Parce que comme il a dit Laurent, on est tous différents. Mm-hmm. Mais bon, moi personnellement, la selle Allegro, c'est parfait pour faire la compétition. Et pour moi, c'est une selle extraordinaire.
J'espère.
Ils ont fait un travail vraiment exceptionnel.
Mais c'est intéressant quand même parce qu'on s'aperçoit que finalement, à l'instar de d'autres grands sports, et notamment puis on parlait de la Formule 1, où il y a un travail entre le monde de la technique, des ingénieurs et des pilotes, et tous les efforts, toutes les évolutions qu'ils vont développer sur F1 va ensuite se transmettre sur parfois le monde de l'automobile civile, beaucoup plus courante. On a le sentiment que c'est un peu la même chose. Tout le travail que vous faites tout au long de l'année avec les grands champions, finalement, vont en bénéficier les cavaliers, je ne vais pas dire du dimanche, mais un peu plus amateurs. Donc finalement, vous êtes vraiment dans une logique de compétition sportive, un peu comme c'est un vrai sport comme les autres.
Tout à fait. Et en même temps, vous voyez, avec Pilar, nous avons travaillé déjà même sur la selle précédente avec elle et nous avons constaté que c'est la selle cavale n'était pas la selle qui convenait à l'équitation de Pilar. Donc nous avons rebondi sur, justement par rapport à l'évolution qu'on a voulu amener, exactement. Nous avons rebondi, nous avons fabriqué l'Allegro parce que nous avons trouvé la modification qui allait être efficace pour les cavaliers qui montent d'une autre manière que ceux qui montent dans la cavale. Et c'est ça qui est important.
Simon de l'Est, numéro 1, monte avec la cavale.
La cavale, voilà.
Voilà, c'est ça.
Obsolète, parce que, comme vous dites, il y a un dialogue entre le cavalier et sa selle. Juste, j'ai peut-être posé la question à Anne-Sara, je pourrais la poser au maître sellier, mais tout le travail qui est fait dans le monde de la sellerie chez Hermès, est-ce qu'il trouve écho dans d'autres départements? C'est-à-dire que le travail des cuirs, le travail, par exemple, des savoir-faire de boucles que vous pouvez imaginer, est-ce qu'on va avoir des résurgences ou ça va venir influer le travail sur la maroquinerie, sur les sacs? Alors on sait que justement, toute l'esthétique de l'équitation, on la retrouve pas simplement du côté des cuirs, mais quand on voit les carrés de soie, il y a souvent des évocations du monde de l'équitation. Mais est-ce que leur travail, ça trouve écho dans d'autres départements chez Hermès?
Il peut y avoir une transversalité des savoir-faire d'un métier à l'autre. La maison a 14 métiers, ou 16, selon la façon dont on les compte. Et donc, évidemment, les savoir-faire qui peuvent être développés à un endroit dans la maison peuvent être transférés ou traduit différemment dans un autre métier. Donc c'est vrai vers la sellerie ou de la sellerie vers un autre métier. Après, je crois que ce qui caractérise vraiment la maison, c'est la recherche de l'excellence et c'est vraiment sur cette façon de faire, la recherche de l'excellence et la transmission qui sont vraiment les deux points très importants et qui caractérisent tous nos métiers.
D'ailleurs, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, Anne-Sara Pommard, c'est que au-delà de cette compétition, de ces épreuves sportives, il y a tout l'univers aussi que vous créez justement durant le Saut Hermès. Il y a un spectacle.
Alors, ces trois jours sont une célébration de cheval au-delà, c'est effectivement, du concours. Et donc, il y a un spectacle de Bartabas qui nous accompagne pour la quatrième fois cette année, avec un spectacle qui se La nature au galop, qui fait écho donc à notre thème annuel.
Spectacle inédit, enfin original,
créé par Bartabas pour l'occasion. Et puis des animations tout au long du week-end, que ce soit librairie équestre, une rencontre avec Pégase, cheval ailé en réalité virtuelle, une ferme et une mini ferme et des concours de poney pour nos plus jeunes visiteurs. Voilà,
il y en a. Ce qui participe, je pense, entre autres aussi au succès de l'événement, c'est que il y a bien sûr la compétition, mais que derrière il y a un véritable village.
Il y a le partage de la passion et l'amour pour le cheval, je crois.
Vous faites des démonstrations tout au long du week-end. Parce que c'est un travail. C'est vrai, quand on a la chance de visiter les ateliers Hermès, pas simplement ceux de la sellerie, mais sa sellerie, c'est impressionnant. On est ébloui par la gestuelle, par les techniques, par ce qui va devenir une œuvre finie, mais tout le travail. Il ne vous autorise pas à dévoiler, révéler un petit peu durant ce week-end votre savoir-faire?
Alors il y a bien souvent, alors je ne sais pas si c'est prévu cette année, mais il y a souvent l'atelier qui se déplace, où il y a des artisans qui...
Ah, chaque année, on vous a pas entendu.
On vient vous annoncer que...
Moi, dans mon petit bureau d'études, je ne vois pas les coulisses.
Non, comme chaque année, la présence
effectivement.
Et ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qu'exceptionnellement, cette année, on inverse les rôles. Les cavaliers font des selles et vous montez. Donc, il va falloir un petit peu cravacher cette semaine votre équitation.
Donc, mais on va monter avec les selles qu'ils fabriquent. Donc, tant qu'ils les ont pas fini de les fabriquer, on ne pourra pas monter. Voilà.
En tout cas, est-ce qu'il reste encore des places?
Alors, nous sommes victimes de notre succès.
Et ben voilà.
Plus de place du tout. Une retransmission en direct sur Eurosport le samedi et le dimanche pour les épreuves principales. Donc, le saut Hermès le samedi après-midi et le Grand Prix du dimanche après-midi.
Et un très beau site internet où vous pouvez retrouver des belles images. Et comme ça, vous prendrez date pour la semaine prochaine.
Pour
l'année prochaine, pardon. Et comme de toute façon, on vous a un petit peu raconté les choses. Et on vous encouragera, Pilar Corbin-Muro. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Laurent Goblet, merci beaucoup. Maître Cellier chez Hermès et Anne-Sarah Panhard, merci beaucoup à vous, directrice générale d'Hermès France. Donc, on regardera ça de près le week-end prochain, le saut Hermès, donc au Grand Palais. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, restez avec nous. Good Luck continue dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luck Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et Good Luck vous emmène en voyage dans un instant. Je laisse monter un petit peu le suspense. On n'ira pas très loin, mais ça vous changera les idées. Mais tout d'abord, le livre de la semaine. Et le livre de la semaine, Emmanuel, c'est une histoire qui vous concerne sans doute. Ah. Ou en tout cas, que vous connaissez peut-être un petit peu. Oui. Un chemin de table. Chemin de table au pluriel.
Alors,
c'est le titre et c'est Maëlys Kerangal. Maëlys Kerangal, vous savez, elle est romancière. Elle a notamment écrit Réparer les vivants. Et là, elle s'est intéressée à la vie d'un jeune chef imaginaire, mais pas tant que ça. En fait, il existe ce chef dans le roman. Il s'appelle Mauro, jeune cuisinier autodidacte qui parcourt Paris à vélo, de place en place, de table en table. Et c'est un petit peu les dessous de cette cuisine parisienne qu'elle raconte par son prisme à elle. Et elle n'élude rien, elle n'élude pas la fatigue du cuisinier, les difficultés de ce chef cuisinier. Et du coup, on a aussi du croustillant dans le style qu'elle emploie. Elle dit, j'aimerais que ce livre donne faim. Et c'est un petit peu ça. Voilà, tout ce qu'elle vous raconte, je vous en dis pas plus parce que vous découvrirez toute cette histoire. Et voilà, c'est intéressant parce que tous les dessous de cette cuisine.
Et la matrice au-delà, la matrice de la cuisine, de la gastronomie, souvent celle du restaurant, c'est ce qu'elle raconte, est très peu utilisée dans l'univers des romans. Et pourtant, on dit souvent, mais un restaurant, c'est un théâtre, une micro-société.
Exactement.
C'est une matière pour la littérature formidable. Plutôt que nous raconter leur nombril, leur chambre d'hôtel ou leur petite vie, il ferait mieux d'utiliser la vraie vie, et notamment celle des restaurants, parce que vous pouvez faire vivre une ville comme Paris, des parcours, des rencontres. C'est ça le métier de chef. J'ai pas lu le livre, je vais le lire, mais effectivement, je sais pas si c'est un chemin de croix, mais au-delà de la gourmandise, c'est aussi un métier dur, âpre, qui donne de la matière et de l'aspérité à ce qui peut faire une belle fiction. Quant à Mauro, je sais pas si c'est le même, mais il y a un grand chef qui s'appelle Mauro Colagreco. Alors il est plutôt du côté de Menton, même si j'espère que je sais pas si c'est lui. Parce qu'il a un peu aussi un drôle de baroudeur, ce personnage-là.
Ça s'appelle
Elle a dû prendre un peu de pièces de partout. Ben,
je pense aussi. Un chemin de table au pluriel de Maïlys Carangal. C'est justement en collection Raconter la vie aux éditions du Seuil. Allez, c'est parti pour le voyage. Good Luxe d'ici et d'ailleurs.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Ça va, Karine?
Ouais, on est ravis de vous retrouver.
Ah, oui, je suis pas partie longtemps.
Vous êtes partie un petit peu,
quand même.
C'est normal, vous allez tester toutes ces adresses que vous nous présentez dans mymoonspots.com et puis de temps en temps, vous venez nous présenter quelques-unes. Alors là, on reste en France.
Alors là, on reste en France parce que je couve vos auditeurs et téléspectateurs et je commence à penser pour eux au week-end de l'Ascension, de la Pentecôte qui se profile et qu'on réserve à grands pas. Et je me suis dit qu'un petit week-end dans les Alpes, qu'est-ce que vous en dites?
Très bien.
Pas mal les Alpes.
On est partant.
Alors, que les choses soient dites, moi, les week-ends insolites, type dormir dans un igloo, dans un hamac, dans un phare, je ne suis pas du tout fan.
Il bon, y a ni phare ni igloo dans les Alpes, donc
alors,
vous partez bien.
Alors, il n'y a pas de phare, il n'y a pas d'igloo.
Mais, je vous suis.
Alors, voilà. Mais on m'a parlé d'un endroit assez incroyable qui est un village des Alpes, donc un village de Provence complètement reconstitué avec sa place de village, sa chapelle, son food truck, etc. J'ai décidé d'aller voir, mais sincèrement, j'étais pas convaincue. Et finalement, c'est une petite pépite. Donc c'est à côté de Paradou, du Paradou. Donc juste en dessous des Baux de Provence. Et donc effectivement, c'est un village qui a été construit par un footballeur il y a quelques années, qui a reconstitué un village miniature. C'est vraiment, c'est un vieux village, mais qui n'a que 5 ou 10 ans.
D'accord.
Et un entrepreneur complètement fou a décidé de le racheter. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi il avait envie de le racheter. Je crois que c'est juste que l'hôtellerie permet l'articulation de différentes passions. Alors en l'occurrence, c'est l'art, la passion des vieilles voitures, la passion de l'architecture, parce qu'il a réussi justement à combiner, à faire un camailleux de toutes ses passions. Alors, cet entrepreneur, il s'appelle Éric-Jean Flourès. Il a compris que finalement, aujourd'hui, avec la montée en puissance d'Airbnb, on pouvait pas juste proposer des chambres d'hôtel. Et donc, il a fait de ce hameau des Baux, qui est donc juste en dessous des Baux de Provence, le plus grand showroom de la planète, puisque vous avez des pièces de Hans Wegner, Ico Parisi, Pierre Gouariche, Le Corbusier, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, on peut retrouver toutes ces pièces dans les chambres, dans les salons. Si vous voulez les acheter, vous pouvez les acheter. Vous pouvez repartir avec votre pièce. Ça, c'est relativement récent. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une décoration assez éphémère. Parce que si vous en venez une pièce, il faut en mettre une autre. Donc, si vous repassez 6 mois plus tard, finalement, toute la déco a
donc
changé.
C'est un hôtel-galerie.
C'est un hôtel-galerie, un hôtel-showroom. Avec en plus, alors, il y a des galeries d'artistes et en plus d'artistes plus contemporains qui peuvent exposer au mur. C'est assez étonnant, c'est assez fascinant. C'est décalé, c'est assez généreux. Il y a une piscine, il y a un terrain de pétanque, il y a ce fameux food truck. Donc, vous vous installez avec vos enfants. Et puis vous dîner une pizza ou un agneau de Mossane,
c'est pas trop concept quand même.
Non,
n'est
pas du tout.
Un petit peu dans le Disney
non,
appliqué
non,
aux sauces
Bubo. Absolument
c'est
pas.
Très bien.
Il faut aller voir. Ouais.
Non,
pas du tout. Pas du tout Disney. Et la chapelle, elle fait d'époque en fait. C'est assez.
Et côté expérience, alors vous parliez de voitures.
Côté expérience, alors je vous parlais des voitures anciennes. C'est vrai que quand on arrive, on a des Mustangs, des vieilles 404, des Mehari, des deux chevaux qui vous font un peu les yeux doux. Et donc ils me disent allez-y, partez en voiture. Je vous avoue que j'étais pas rassurée. J'ai choisi une petite deux chevaux. On m'a dit non, il faut prendre la Mustang des années 50. Donc me voilà. C'est difficile. Quoi à conduire?
Avec Mustang, il faut quand même avoir du bras. Hein.
Ah, mais c'est ça. Et ben, je suis partie à Saint-Rémy-de-Provence sur les traces de Van Gogh avec ma Mustang. Je m'en suis sortie.
Ouais.
Je m'en suis sortie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc on conduit ces vieilles voitures et donc on va sur les traces de Van Gogh. Donc vous allez d'abord à Saint-Rémy puisqu'il a vécu pendant plusieurs années dans ce fameux asile qui s'appelle Saint-Paul-de-Mozol. Il a peint plus de 150 toiles en un an dans cet asile. Donc vous pouvez faire une petite escale là et ensuite aller en Arles. Vous prenez un petit verre au café Van Gogh sur la place du Forum. Vous pouvez vous recueillir
et
devant.
Tout ça, c'est compris dans le prix, c'est package.
C'est compris dans le prix. Bah, il faut peut-être.
Ouais,
si vous prenez pas la voiture, c'est forcément un petit peu moins cher. Mmh. Mais en tout cas, elles sont là et vous pouvez les prendre à volonté. Ouais, c'est des très vieilles voitures.
Voilà. Il y a beaucoup de place dans cet hôtel.
il y a au minimum 15 chambres.
D'accord.
Au minimum 15 chambres. Ça s'appelle le Hameau des Baux et c'est donc juste en dessous des Baux de Provence.
Et on retrouve et tout ça sur
mymoonspot.com pour la réservation, pour les conseils à viser, les inspirations, tout ce que vous voulez.
De Capucine Grabi. Voilà. Merci beaucoup à vous, Capucine, ça donne envie. Ouais. Allez, l'agenda.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Emmanuel, du nouveau chez Alain Ducasse, ça faisait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps. Cours de cuisine, vous savez qu'il est une école de cuisine à Paris. Mais là, il va s'associer à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, mais pourquoi pas à la Maison L'Éclaireur. La Maison L'Éclaireur, c'est un hotspot de la mode, notamment de la mode masculine. Ils ont plusieurs adresses dans le Marais et aussi du côté de la rue Boissy d'Anglas dans le premier. Et du côté de la rue Boissy d'Anglas, il y a un restaurant et une cuisine. Et donc, ils ont demandé à l'équipe de Alain Ducasse, des cours d'Alain Ducasse, de orchestrer comme ça, durant tout le printemps, du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, quatre grands cours de cuisine, tous dédiés à des produits de saison, l'asperge, la morille, les champignons. Ça aura lieu, je crois, le 7 avril, le 7 juin, le 7 juillet. Surtout, il faut réserver maintenant. Parce que, autant vous dire, ce sont plus des cours du soir. Ah 19h, 21h, avec quelques-uns des meilleurs chefs de l'équipe Ducasse. Les places sont un peu réservées. Donc, dépêchez-vous. Je vous donne carrément le numéro de téléphone de la conciergerie. 01 44 90 91 00. C'est maintenant qu'il faut appeler si vous voulez pouvoir bénéficier de ce savoir-faire. Parce que c'est vraiment aujourd'hui l'une des meilleures écoles de cuisine. À la fois pour les professionnels qui y viennent aussi pour se perfectionner, voire se remonter le niveau. Et puis pour les amateurs. Parce que Ducasse, il a... C'est tout son talent. Vous savez pourquoi Ducasse réussit et dure? Parce que justement, depuis des années, il a construit un centre de formation. Alors, profitez-en.
L'Éclaireur et Alain Ducasse. Moi, je vous emmène au Musée des Arts Décoratifs. La nouvelle exposition, c'est Barbie. Eh oui, Barbie jusqu'au 18 septembre. C'est quand même une première. Il y a 700 poupées Barbie exposées. C'est énorme quand même. Mais il y a aussi tout ce qui va avec, bien sûr, les documents, les journaux, les photos, les vidéos des œuvres d'artistes contemporains. Bien entendu, on vous rappelle, elle est née quand même en 1959, Madame Barbie. On retrouve tous ces différents métiers, toutes les créations justement des grands créateurs de mode. Il y a une Karl Lagerfeld qui est absolument géniale. Il y en a d'autres, vous avez aussi le tailleur bar, enfin vous en avez des
bien de réfléchir, c'est d'ailleurs ce qu'ils racontent dans l'exposition, parce qu'ils vont aussi un petit peu ce que raconte et ce que dit Barbie sur un petit peu l'histoire de la pop culture contemporaine. Mais c'est peut-être le plus célèbre des mannequins, Barbie.
Mais bien sûr.
Et celui qui dure surtout.
Et c'est ça. Alors même si elle a quelques difficultés en ce moment, et qu'on a vu, elle avait dû sortir des plus rondes, des peaux plus foncées, des plus grandes, etc. Donc, mais Barbie, ça reste Barbie,
et c'est vrai que c'est
un peu une icône. Voilà, on n'est pas obligé de l'aimer, mais en tout cas, ça a contribué aussi à développer. Et savez-vous qu'il y a eu une Barbie astronaute avant même que on aille sur la Lune?
Ça, je savais.
Ça, c'est dingue. Et donc, il y a certains métiers pas mal. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais c'est toujours bien fait parce que c'est au Musée des Arts Déco. Emmanuel, très rapidement, en 10 secondes, le nouveau chef de la Tour d'Argent.
Voilà, Tour d'Argent, quai de la Tournelle, mythologie vivante, 400 ans, plus de 400 ans d'histoire. Tour d'Argent qui n'avait pas l'habitude de faire venir finalement des chefs stars. La Tour d'Argent se suffit à elle-même et c'est surtout une famille. Les Terrailles sont une profession restaurateur. Pour la première fois, un grand chef va investir d'ici quelques jours la Tour d'Argent pour lui redonner certainement de l'élan, de l'allant, un peu du fond au creux de l'assiette. Il s'appelle Philippe Labbé, on le connaît parce qu'il orchestrait les cuisines du Shangri-La. Il avait quitté le Shangri-La il y a 2 ans pour aller du côté de Larnsbourg en Alsace. Il revient à Paris, c'est un très bon... plus ça va bien. C'est un mec qui a des fondamentaux, un vrai néoclassique. Ça va être parfait pour relancer, si elle avait besoin, la Tour d'Argent. Mais je crois qu'on va en reparler, la Tour d'Argent.
Oh, bien sûr, on va en reparler, la Tour d'Argent.
Elle nous réserve quelques surprises pour ce printemps.
Et moi, je voudrais juste terminer quand même, parce que ça se passe du 18 au 20 mars, donc c'est maintenant qu'il faut que je vous en parle. Est-ce que vous connaissez les... Alors, il faut que je retrouve le nom. Les Wagashi. Les wagashi.
Je connais les tamagashi.
C'est ça, et c'est les petites pâtisseries japonaises, vous savez, translucides, etc. Absolument formidables, en tout cas à l'œil. Et donc, à l'espace Marais, rue de Beauce, à Paris, du 18 au 20 mars, les 11 plus grands maîtres pâtissiers japonais viennent présenter leur création. Ça s'appelle Yokan Collection in Paris. Yokan Collection, en fait, c'est une centaine de maîtres pâtissiers japonais qui se sont regroupés. C'est la première fois que ça a lieu à Paris. Et on a des choses incroyable, je vous rappelle quand même la recette, de la pâte de haricots rouges, du sucre traditionnel japonais, de l'agar agar, tout ça fait beaucoup de gélifiant, beaucoup de translucidité.
Oui, mais
c'est vraiment
naturel.
Une recette ancestrale qui date du 14e siècle.
Gélifiant naturel.
Bien sûr. À Tokyo juste avant ou juste après?
Et là, la boucle est bouclée.
Et la boucle est bouclée. En tout cas, Yokan Collection in Paris, 18 au 20 mars, à l'espace Marais, rue de Beauce, à Paris, pour le plaisir des yeux, et pas seulement, parce qu'évidemment, on vous fait déguster, on vous fait découvrir ça, parce qu'il y a tout à découvrir avec ces wakashi. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Good luck, c'est pas tout à fait terminé. C'est le best-of tout de suite sur BFM Business.